Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre, s'il vous plaît. Dans la première épître de Pierre, le Seigneur dit ceci aux chrétiens. C'est important parce que c'est très équilibré ce qu'il va dire là. Première épître de Pierre, chapitre 1er, et versets 5 et 6. Regardez bien, et 7. Regardez ce qui est contenu dans ces textes. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Vous avez la joie du Seigneur, du salut, la joie du salut. Mais regardez, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, je répète, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Donc vous voyez d'un côté, il y a une joie, c'est la joie du salut, nous sommes tous heureux d'être sauvés, c'est quelque chose que nous n'arrivons même pas à exprimer parfois, tellement nous sommes reconnaissants. Et d'un autre côté, comme sur l'autre côté d'une pièce, il y a cette tristesse, il la faut, en plus, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, pourquoi ? Afin, regardez bien, que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Votre foi, mes frères et sœurs, ne nous en rendons pas bien compte parce que c'est comme ça. Notre foi, que Dieu nous a donnée, est plus précieuse que l'or. Et vous allez comprendre pourquoi. Qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. D'un côté, il y a une vraie joie. C'est vrai qu'il y a une joie. Mais avouez que d'un autre, il y a aussi de la tristesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est normal, ne pensez pas que vous êtes ambivalent parce que vous avez de la joie et en même temps vous avez de la tristesse. Paul parle souvent de la joie, il le dit, mais réjouissez-vous toujours. Et ailleurs, dans le livre des Philippiens, il dit, mais j'ai dans le cœur un chagrin continuel. À cause des perdus, on pourrait dire, mais il se contredit. Non, il ne se contredit pas. Il y a la joie du salut, il y a la joie de la grâce, et en même temps, il y a les combats intérieurs, qui sont très très difficiles à exprimer, mais ils existent. Et Dieu, il le faut, qui nous a donné la foi, veut que cette foi soit forte. Alléluia. Veut qu'elle fasse des progrès. Ce matin, je lisais les épîtres aux Thessaloniciens et Paul leur écrit, je vous écris pour compléter ce qui manque à votre foi. Je vous écris pour que votre foi marche de progrès en progrès. On voit que le souci de Paul pour les Thessaloniciens, c'est que leur foi augmente. Même si c'est une église qui vraiment tient debout. Et on voit dans la parole de Dieu tous ces textes, la fermeté de votre foi, une grande assurance dans la foi, Paul fortifiait les disciples dans la foi, etc., etc. On voit qu'il y a plein de qualificatifs qui montrent que la foi doit grandir. Et de l'autre côté, on voit aussi que lorsqu'elle ne grandit pas, eh bien sûr, elle peut être faible. On le voit, ceux qui sont faibles dans la foi, accueillir celui qui est faible dans la foi. C'est vrai que c'est pas toujours marrant parce qu'il y a des gens qui sont toujours faible, et ça peut nous fatiguer, à nous, de voir des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Vous vous rappelez ce que un certain Saul de Tarse faisait avant de se convertir? Vous vous rappelez ce qu'il disait? Il s'efforçait de détruire la foi. Vous savez, Saul de Tarse n'existe plus. Il s'est transformé en ce grand apôtre Paul, mais je peux vous dire qu'il y en a qui se chargent de poursuivre l'œuvre de Saul de Tarse. Il y en a un en particulier qui s'applique à essayer de détruire notre foi. Vous savez comment s'appelle le diable? Le destructeur. Un des noms. Le destructeur. Il veut détruire notre foi. Il y a des gens, des impies, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a même des croyants qui sont très 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 superficiels, qui sans s'en rendre compte contribuent à détruire la foi. C'est terrible quand c'est des faux frères, quand c'est des faux ouvriers, etc. Et ça peut arriver. Donc Dieu éprouve notre foi. Il n'est pas l'épreuve de vos vies, l'épreuve de votre foi. Et je suis convaincu que plusieurs parmi nous ont besoin d'entendre cette prédication pour comprendre qu'il le faut C'est comme cela, parce que l'œuvre de Dieu se fera au travers de la foi des chrétiens. Il vous sera fait selon votre foi. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas une question de nombre, de mémoire, etc. C'est une question de foi. Donc vous comprenez bien, il le faut. Dieu qui vous connaît, qui te connaît, sait exactement où tu en es. Il t'a donné une foi qui est plus précieuse que l'or. Qu'est-ce qu'on vous dirait, vous? Qu'est-ce que vous préférez? Votre foi ou un kilo d'or? Un kilo d'or, je vous propose 10 kilos d'or ce matin à chacun. Vous voyez que j'ai fait des économies. Est-ce que ça vous convient? La Bible dit que la foi est plus précieuse que l'or. Ça devrait nous aider, mes frères et sœurs, parce que quand même on est là devant Dieu. Je le répète, il y a la joie du salut, il y a la joie de la grâce, la joie de l'espérance. Mais en même temps, il y a quand même tous ces combats, ils sont là, ils sont réels. Parfois ça nous épuise, certains même ont abandonné la foi, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait que notre foi fasse de véritables progrès. Alors on va lire une histoire que l'on va simplement partager pour que vous compreniez, pour que nous comprenions combien Dieu veut que nous ayons une foi vivante. La croyance, ça ne sert à rien. La tradition, ça ne sert à rien. Mais la foi vivante, elle fait mouvoir le bras de Dieu. Ça vous convient cela? Le texte qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai eu cette introduction, c'est dans Luc au chapitre 7, on pourrait le lire aussi dans Matthieu, mais j'ai pris Luc. Il y a d'autres renseignements dans Luc, dans Matthieu, mais on va lire Luc s'il vous plaît. Cette histoire, on la connaît, on l'utilise beaucoup pour l'évangélisation, mais je crois que c'est un tort de n'utiliser certains textes que pour l'évangélisation. Ce texte peut être utilisé pour l'édification des chrétiens. Et je voudrais que nous l'avons demandé dans le chant que nous avons pris, « J'écouterai ce que dit Dieu ». Mes frères et sœurs, je suis convaincu que cette semaine, nous pourrions faire certaines expériences, pas nouvelles, j'allais dire nouvelles, mais des expériences qui correspondent à la volonté de Dieu. Parce que nous allons prendre à cœur ce que nous allons partager, sincèrement. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Luc chapitre 7, verset 2 au verset 10. Un centenier, donc c'est un officier de l'armée romaine qui avait 100 soldats, 100 teniers. Donc c'est un capitaine de l'armée. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va », et il va, à l'autre « Viens », et il vient. Et à mon serviteur « Fais cela », et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Je crois que c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où on voit Jésus admirer un homme qui ne fait même pas partie du peuple de Dieu. Je relis. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis. » Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Et je pense qu'on peut tous dire Amen, Amen, deux fois, parce que ce texte est là, parce que le Saint-Esprit a voulu que ce texte soit là. Tout n'est pas raconté, Jésus a fait tellement, tellement de choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Mais dans la parole sont écrites toutes les histoires dont on a absolument besoin. lorsque Jésus parle de la fin des temps et qu'il dit qu'il fera justice à ses élus parce qu'on est justement en difficulté, il dit même Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit pour nous rassurer. Dieu fera justice, ne vous inquiétez pas. Ici-bas ou dans l'éternité, ce n'est pas grave. Et il ajoute la question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question à laquelle l'Église doit répondre, à laquelle nous serions très intelligents de répondre. Et de dire, tiens, mais au fait, où j'en suis de ma foi. Ce matin, nous pouvons être droits devant Dieu, simples, vrais, puisque nous savons que le juste vivra par la foi, qu'il nous sera fait selon notre foi, etc., etc., que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aurais pu prendre tous ces textes pour étayer tout ce que je vais vous dire. Mais vous le savez si vous êtes chrétien. Donc, nous devons nous poser la question, tiens, le Seigneur va bientôt revenir, mais même qu'il ne revienne pas bientôt, dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon cœur? Est-ce qu'il y a de la croyance? Il y a de la reconnaissance? Vous savez, moi, quand on chante les cantiques qu'on a chantés ce matin, je pense que tous, on est reconnaissants, oui ou non? Ça nous rappelle le calvaire, ça nous rappelle l'amour de Jésus, et chaque fois ça revient, et chaque fois ça s'installe, et chaque fois ça nous remplit d'admiration. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons automatiquement manifester une véritable foi. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu, et croient, ils aiment Dieu, et de toute façon on n'est pas capable de juger ces choses. Mais beaucoup de chrétiens lient, prient, vont à l'église, et même des serviteurs de Dieu, je suis convaincu qu'ils pouvons prêcher très sérieusement, mais ce n'est pas pour ça qu'on a la foi. Lorsque Dieu s'adresse aux chrétiens de l'Ancien Testament, vous savez ce qu'il leur dit, mais vous m'honorez des lèvres, ce peuple m'honore des lèvres. Ils le faisaient, vous voyez, ils l'honoraient, c'était vrai. Et je ne suis pas sûr que ce n'est pas pour ça que c'était des hypocrites. Il y avait de l'hypocrisie, mais ce n'est pas pour ça que tout le monde est des hypocrites. Il dit, mais voilà, c'est un précepte humain. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'était pas un reproche pour les accabler, c'était un reproche pour les aider. Jamais, si vous connaissez Dieu, vous savez très bien que chacun de ses reproches, chacun de ses actes de sévérité n'est fait que dans un but, nous aider. Et ce matin, moi je voudrais que nous nous aidions les uns les autres, car c'est quand même le but, que nous nous exhortions les uns les autres, que Dieu ne nous dise pas un jour, eh bien, ta foi était bancale, ta foi n'était pas la foi que je t'avais donnée, cette foi qui était précieuse, plus que l'or. Si la Bible nous dit que l'or, la foi est plus précieuse que l'or, moi je vous conseille de l'accepter de suite. Et de dire, tiens, j'ai peut-être pas beaucoup de foi, mais c'est quand même de l'or, plus que de l'or. Parce que les choses terrestres sont temporelles, mais les choses spirituelles sont éternelles. Donc ça vaut la peine que je bichonne ma foi. Est-ce que j'ai cette véritable foi, cette foi vivante dans ce Dieu vivant? David dit, je crie au Dieu vivant. On a un vieux cantique qui dit, ma foi est vivante dans un Dieu vivant. Donc on voit que Jésus, d'ailleurs c'est le titre que j'ai donné, Jésus admira le centenier, c'est quand même un texte. Mes frères et sœurs, je ne sais pas vous, quand on comprend qu'il faut que notre foi soit éprouvée, donc ne vous tracassez pas parce que vous avez des luttes et vous êtes fatigués intérieurement et vous êtes parfois malheureux parce que vos pensées ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça vous arrive d'avoir des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Combien? Une fois par an? Vous avez vu le nombre de fois où là-dedans ça ne va pas? Il y a des combats et Dieu éprouve notre... Il le faut. Pourquoi? Parce que Dieu sait que cette foi, je le répète, qui est plus précieuse que l'or, doit augmenter, doit faire des progrès, doit être vivante. Pour que lorsque nous prions, lorsque nous nous retrouvons à l'église, lorsque nous sommes seuls dans notre chambre et que nous prions, il ne faut pas qu'on recite des prières, il ne faut pas qu'on raconte des trucs pour raconter des choses. Il faut que notre foi soit vivante. Vous êtes d'accord ? Vous voulez que vos prières soient exaucées? Franchement, vous aimeriez que lorsque vous vous présenterez devant Dieu, le Seigneur vous dise, me dise, mais tu as prié pour rien. Vous aimeriez que ça se présente? Bien sûr que non. On serait confus, je ne sais pas comment ça se passera. Mais nous serions extrêmement attristés de que Dieu nous dise « Mais tu as prié pour rien ». Et pourquoi? Parce que nous n'avons peut-être pas suffisamment compris que notre foi était plus précieuse que l'or. Et qu'il faut absolument l'habichonner. Et se poser la question ce matin, « Mais Seigneur, mais aide-moi ». Vous croyez que Dieu ne vous aidera pas si nous lui demandons qu'il nous aide à avoir une foi vivante? Quand on dit, quand on sait que c'est le seul moyen de lui être agréable, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors on ne veut pas lui être agréable pour lui être agréable, mais on veut lui être agréable parce que ça fera avancer le royaume de Dieu. Nous voulons, parce que c'est sa volonté, que des âmes soient sauvées. Nous voulons que les gens que nous côtoyons, qui sont malades, comme ce serviteur, on ne sait pas comment il était ce bonhomme, on ne sait pas comment il était, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il n'était pas bien, enfin, il avait l'air très bien. Et il a été guéri. Si on a un enfant comme la syrophénicienne qui avait une fille qui était tourmentée par le démon, est-ce que Dieu peut guérir instantanément un de nos enfants qui est tourmenté par les ténèbres? Est-ce que Dieu peut le faire? Mais bien sûr. Et il veut le faire. Ce n'est pas qu'il peut, c'est qu'il veut. Donc, je suis honnête, je me mets à votre place, nous sommes honnêtes, Seigneur, il faut que ma foi grandisse. Alléluia. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Levez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous croyez que Dieu nous aidera à ce qu'on ait une foi vivante? C'est pour ça que ces textes dont la parole de Dieu. Quand Jésus dit, il se tourne vers le peuple, parce que c'est un païen, il est dans une voie de conversion, c'est sûr, il se tourne vers son peuple, vers les Juifs, et il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que la foi peut grandir. Alléluia. Et vous savez, on est devant Dieu, je sais que Dieu regarde au cœur, je sais que Dieu sait dans quel état d'esprit on est, il sait si ça va, si ça va pas. J'ai presque envie de dire, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est cette honnêteté. Seigneur, ce matin, tu nous parles sur la foi, tu l'éprouves, j'avais pas capté qu'elle était plus précieuse que l'or, pour moi, je l'ai pas réalisé. Tu me le montres, Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu m'as montré ça, tu me montres que la foi peut grandir, devrait grandir. Eh bien, on va s'y atteler. Ces jours-ci, je vais tenir compte de ce que tu vas me dire au travers de ce qui va suivre. Je vais en tenir compte. Je veux une foi vivante. Je ne parle pas du salut. Le salut, c'est une chose, c'est acquis, on a accepté Jésus-Christ. Mais quand même, c'est super bien d'ajouter à ce salut une foi vivante. Vous êtes d'accord? La foi doit faire des progrès. Alors est-ce que sincèrement, j'ai soif ou alors c'est juste, j'aimerais avoir soif? Je pense que beaucoup, des fois, il y a vraiment beaucoup de problèmes des fois, dans mon cœur, dans le vôtre. On dit j'ai soif de ta présence, mais en vérité c'est on aimerait avoir soif. Alors tout ça c'est compliqué parce qu'il y a des combats, il y a des luttes. Il faut que vous soyez attristés, vous voyez, parce que Dieu va éprouver la foi. Comment exerçons-nous notre foi? Puisque c'est de notre responsabilité. J'ai été étonné lorsque j'ai lu la Bible pour la première fois. J'ai été très 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 étonné de voir l'humilité de Jésus-Christ. Vraiment, j'ai été étonné. Quand j'ai compris qu'il était Dieu sur la terre, et que lorsqu'il guérissait un malade, lorsqu'il sauvait un pécheur, il aurait dû dire, je suis le Seigneur, je t'ai guéri. Je suis le Seigneur du ciel et de la terre incarné, reconnais-le. Je t'ai sauvé. Donc, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Moi, ça m'a presque perturbé cette affaire. Ta foi t'a guéri. Il met l'action sur la personne. la bénédiction sur la responsabilité de la personne. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Moi, je trouve que c'est, franchement, c'est bouleversant. Donc, on voit bien que c'est de notre responsabilité d'exercer notre foi. C'est vrai que ces gens, pardon, ont fait la démarche, comme on le voit dans la Bible, ils s'approchaient de Jésus, tant bien que mal, et pitié de moi, et pitié de moi. Ils faisaient une démarche. Plein de gens sont restés chez eux et n'ont jamais été au bénéfice de cette grâce qu'ils auraient pu obtenir. Mais ce matin, nous aussi, on a fait une démarche, on est venu dans la maison du Seigneur, on a besoin de faire des progrès, etc. Donc c'est de notre responsabilité. Donc Jésus, dans ce texte, dont le Saint-Esprit a voulu qu'il soit consigné dans les Saintes Écritures, nous parle de la grande foi de cet homme. Donc une chose est certaine, si le Seigneur nous parle de la grande foi de cet homme, c'est qu'il veut que notre foi grandisse. Alléluia. La foi, elle doit s'exercer dans l'amour. C'est un premier point. Alors, je voudrais lire un texte avec vous que j'avais mis même en introduction. C'est dans Galates. C'est important, mes frères et sœurs, que nous comprenions que le premier point de cette grande foi est lié à l'amour. Dans Galates, j'ai pris ce texte parce que je l'ai lu dans la semaine. Galates chapitre 5, c'est le verset 6. Regardez bien. C'est une loi du royaume des cieux. Galates, chapitre, la foi, d'ailleurs, vous le savez, si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien. Galates, chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Vous savez que c'était le problème des Galates, cette affaire de loi conjuguée à la foi. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc, on peut être sûr d'une chose, que si cet homme a été taxé par Jésus-Christ d'avoir une grande foi, c'est que cet homme aimait son serviteur. Les officiers de l'époque, surtout les militaires, avaient un serviteur malade, mais ils le laissaient mourir. Un cheval avait plus de valeur qu'un esclave, à cette époque-là. Quoique. Et il aurait pu le laisser mourir et en acheter un autre, ou le remplacer. Il nous est dit que cet homme avait un serviteur auquel il était très attaché. Nous voyons quelqu'un qui aime ses serviteurs. Et c'est la première question que nous pouvons nous poser, parce que tout est fait, et le diable pousse pour que nous n'aimions pas. Pour que les luttes, les combats, les difficultés, les galères, etc., les contrariétés, les déceptions. Vous avez déjà été déçu par quelqu'un ? On est blessé souvent. Surtout, en plus, on est blessé par les gens qu'on aime. Les gens qu'on ne connaît pas, ils peuvent dire des trucs sur vous, ça vous est égal. Et tout cela est fait pour que nous n'aimions pas comme nous devrions aimer. Cet homme avait un serviteur auquel il était très attaché. Vous avez vu ce que les Juifs ont dit ? Revenons s'il vous plaît au texte. Regardez ce que les juifs religieux vont dire à Jésus lorsqu'ils vont le trouver par rapport à cette affaire. Regardez bien, au verset 5. Il n'aimait pas que son serviteur. Ne nous dites pas, c'était un Romain qui était là dans le travail d'occupation. Il aime notre nation. Attendez, c'était un officier de l'armée. En plus, regardez ce qu'il fait. Cet amour, c'était pas de la philosophie. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il aimait tellement le peuple juif qu'il a eu besoin d'exprimer cet amour en construisant une synagogue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous allez me dire, ouais, mais il avait les moyens. Ça, c'est un autre sujet. La question qui nous préoccupe à nous, par rapport à ce premier point sur l'amour, est-ce que nous aimons l'Église ? C'est une question absolument sérieuse. Est-ce que nous aimons le peuple de Dieu ? Est-ce que le peuple de Dieu doit être aimé ? Est-ce que c'est toujours facile d'aimer l'Église ? Soyons honnêtes. Est-ce que c'est toujours facile d'aimer le corps de Christ? Moi, je pense que c'est compliqué. C'est pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est que pour que nous puissions avoir une foi qui grandisse, il faut absolument que la foi soit agissante dans l'amour. Si cet homme n'avait pas aimé son serviteur, si cet homme n'avait pas aimé le peuple juif, il n'aurait jamais fait cette démarche. Et il y a des prières que nous ne ferons pas, des démarches que nous ne ferons pas si nous n'aimons pas le peuple de Dieu. Si nous aimons les frères, les sœurs, tiens, je parlais tout à l'heure de cette sœur qui ne peut pas venir, ou de ces frères et sœurs qui ce matin sont privés de culte parce qu'il n'a pas eu de chauffeur, parce que le chrétien en question était en vacances. Ça va nous pousser. On va le faire, c'est spontané. C'est pas organisé, même s'il y a de l'organisation. C'est spontané. Je veux une foi qui sera agissante par l'amour. Cet homme, il a manifesté son amour. Il n'était pas né. Il n'a pas été formé dans sa jeunesse pour aimer l'ennemi. Il a été formé pour aimer la haine. Un officier, moi j'ai été engagé dans l'armée. La première chose qu'on nous a dite quand je me suis engagé dans une armée de combat, c'était vous êtes ici pour apprendre à tuer. C'était la première chose qu'on nous a dite. Et un soldat, nous on est là avec nos trucs, mais je peux vous dire que dans l'armée, la première chose qu'on enseigne à un soldat, c'est de tuer. Et lui, malgré la formation qu'il a eue, parce que ne vous retranchez pas sur votre passé, ouais mais j'ai vécu ceci, mais j'ai vécu cela, et ça a été galère d'eux, et mes parents, et mon père, et ma mère, j'ai pas été aimé, tatati, tatata. Quel que soit le contexte dans lequel on a vécu, nous avons un Dieu qui nous permet d'aimer. Nous pouvons choisir d'aimer, même dans les temps d'apostasie. Et je sais que ce n'est pas facile. Je me suis entendu dire un jour à mon épouse, alors que nous étions dans une église de passage, eh bien, je ne voudrais pas être pasteur de cette église. Et je le pensais, et je le pense toujours. Tellement cette église est en mauvais état, tellement cette église est remplie de gens qui sont impies, etc. Pas tous, mais enfin, franchement. Vous voyez, j'en ai honte. Et je sais que ce n'est pas facile. Et je ne suis pas là en train de vous donner des leçons et de dire, et vous devriez davantage aimer l'Église. Non. Je voudrais que nous comprenions que la foi, elle est agissante dans l'amour et que Dieu peut nous donner de l'amour les uns pour les autres. Dieu peut même nous donner d'aimer nos ennemis. Oui ou non? Parce que cet amour ne vient pas de nous. L'autre jour, j'ai reçu un mail d'une sœur. Mais de quel amour parlez-vous? Une sœur qui est blessée. Elle a vécu des choses terribles dans l'Église où elle était. Mais je crois qu'il y a un amour que l'on reçoit du calvaire. Que l'on reçoit du ciel et qui nous permet vraiment d'aimer. Cet homme, il avait choisi d'aimer les serviteurs qui le servaient, les soldats qui le servaient, la nation que le Rome oppressait. Lui, il avait dit non, moi. Et la preuve, ça s'est concrétisé. Que Dieu nous fasse la joie de concrétiser notre amour par des actes. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci, a dit Jésus, que le monde, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens, ils n'en ont rien à faire de notre dénomination. Les gens, ça les embrouille plus qu'autre chose. Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour pour les autres. Le seul moyen pour que les gens reconnaissent l'Église, c'est pas une question de dénomination, c'est pas une question de doctrine. Les gens, ils n'en ont rien à faire de la doctrine. Les gens, ils veulent voir des chrétiens qui s'aiment. Ça, c'est le premier point, mais ce n'est pas le plus important. Même si l'amour, c'est la plus grande chose. Parce qu'on peut aimer d'une manière très philosophique, très, très, très mystique, très sentimentale et pas spirituelle. Mais ce que je voudrais vous dire, et qui est le plus important, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Si vous oubliez tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas grave. Mais ce que je vais vous dire maintenant, écoutez-le bien. La foi de cet homme, elle s'exerce dans l'humilité, une véritable humilité, parce qu'on peut se la jouer, vous le savez qu'on peut jouer les humbles, oui, vous le savez. Regardez bien cet homme, dans quel état d'esprit il est. Je ne sais pas si nous comprenons vraiment cet officier qui avait été enseigné à tuer et qui avait choisi d'aimer, parce qu'il avait certainement vérifié que quand on a de la haine, on ne fait pas beaucoup de progrès. Cette humilité, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parce que je crois que souvent on s'embrouille nous aussi. Cette humilité est telle que cet homme qui n'est peut-être pas encore sauvé, je ne sais rien en vérité, cette humilité est telle que cet homme est dans une démarche de vérité. Alors que les juifs religieux qui vont s'approcher de Jésus pour interpeller le Seigneur par rapport à ce besoin, eux sont dans l'erreur. Est-ce que, mes frères et sœurs, vous réalisez ce qui est en train de se passer? Ceux qui auraient dû être dans un processus de vérité n'y sont pas. Regardez ce qu'ils disent. C'est important, mes frères et sœurs. Parce que si nous voulons que notre foi grandisse, il faut que notre amour soit vrai. Je le répète, si nous n'en avons pas, eh bien demandons-le, il nous le donnera. Donc ces juifs, que cet officier envoie, ces religieux, vont vers Jésus et regardez ce qu'ils lui font. Vous êtes avec moi? Verset 4. Mais c'est terrible. Les juifs s'approchent de Jésus et lui disent, il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il nous a bâti une synagogue. Alors que le militaire, qu'est-ce qu'il dit lui? Au verset 6. À la fin du verset 6, le militaire va dire exactement l'inverse. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Autrement dit, je ne mérite pas. C'est ça que ça veut dire. Quand les chrétiens ne sont plus dans une démarche d'humilité, ils tombent dans l'erreur. Et ils deviennent ou religieux ou légalistes, ce qui a détruit nos églises, ou laxistes, ce qui a également détruit nos églises, parce que la grâce ne s'est pas manifestée alors qu'elle aurait pu se manifester. Et là, nous avons un des enseignements les plus précieux de cette grande foi, à savoir que ceux qui auraient dû être dans la vérité sont dans l'erreur. C'est grave ce que je vous dis. Et celui qui n'est pas dans la vérité, l'est en vérité. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'humilité. Je comprends vraiment mieux pourquoi il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, si je vous l'explique bien. Mais combien de chrétiens, encore aujourd'hui, sont dans cette notion de mérite. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas du tout bon. Il mérite ça, le frère. Hein. Vous l'avez jamais dit, ça? Vous l'avez jamais entendu? Non? Est-ce que nous ne nous sommes pas fait tous piéger par cette affaire? Ah, il mérite ça, le frère. Franchement, comme il est consacré. Ou celui-là, eh bien, il est tout le temps à l'église, eh bien, il mérite que tous ses enfants se convertissent. Je pourrais multiplier les exemples. Et je sais que nous tous, même moi le premier, je me suis fait piéger par ce genre de comportement. Et ça, ça ne vient pas de Dieu, croyez-moi. La religion du mérite, c'est diabolique. En tous les cas, c'est humain. Ce n'est pas du tout spirituel. La religion du mérite, elle n'existe pas dans les évangiles. Moi, je ne l'ai jamais vue. Que Dieu nous garde, parce qu'en vérité, ça amène à la propre justice. Ça veut dire, voilà, j'ai passé une bonne semaine. J'ai passé une bonne semaine, je mérite de prendre la Sainte-Seine, évidemment. Et voyez, ça commence avec des petits trucs comme ça, et on en devient légaliste. Pourquoi? Parce que ça produit ce qu'on appelle, ce que Jésus, l'apôtre Paul appelle, la propre justice. C'est-à-dire, j'irai au ciel parce que j'ai fait des œuvres. Bien sûr que les œuvres détermineront les récompenses, ça c'est sûr. Surtout si elles sont faites de tout son cœur. Mais cette notion du mérite, c'est terrible. Alors que lui, je vous le dis, je ne le sais pas, il n'est pas encore sauvé d'après moi, il est sur ce processus, il a entendu. Il est dans un processus de vérité. Est-ce que c'est important pour vous, mes frères, de vivre dans la vérité? Moi, je vous assure, je suis peiné. Moi, j'ai supplié Dieu d'être pasteur d'une église où il n'y aurait pas de légalisme. Il y en avait quand je suis arrivé, il y en a encore un petit peu, mais pas trop. C'est vraiment du poison, le légalisme. Ça vous bousille un plat en entier. Vous vous rappelez quand ce prophète, c'était la famine. Quand il y a la famine, en plus, ça se complique. Il avait été ramassé des coloquintes. Vous savez, ça ressemble à des courgettes ou des concombres. Et lui, il n'a pas fait gaffe. Hein. Il les a mélangés dans la soupe. Et il a empoisonné. Il allait empoisonner. Il s'est empoisonné lui. Et empoisonné les autres. Et le légalisme, c'est un poison. On l'introduit insidieusement dans nos prédications. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'en ai honte. Je l'ai fait. Mais j'en ai vraiment honte. Et le problème, c'est que ça ne fait pas agir le bras de Dieu, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et cet homme, il aurait pu dire aux Juifs, écoutez, vous allez voir le maître, bon, j'ose pas trop y aller parce que je suis là, dans mon officier, dans mon costume d'officier, allez le voir, je sais pas si j'ai le droit d'y aller, dites-lui surtout que j'ai dépensé tant de shekels pour la, de drachmes, pour la synagogue, dites-le lui, peut-être que ça va influencer. Non. Il est dans une véritable humilité. En plus, il dit pas faites-le venir, qu'il pose sa main sur mon serviteur qui est malade. Il n'a même pas besoin de ça. Nous, on est souvent plus touchés lorsqu'on vient à l'imposition des mains que plutôt de prier à notre place, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lui, il n'est pas du tout dans cette démarche. Il est vraiment dans une belle foi. Une foi d'amour qui le pousse. Une foi humble qui l'introduit dans la vérité. Et mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions demander l'aide de Dieu, parce qu'il va nous aider. Ce n'est pas possible que Dieu ne nous aide pas s'il voit notre état d'esprit. Mais la justice divine, elle ne s'obtient pas par les œuvres de la foi, ou de la loi, pardon. La justice divine, elle s'obtient par la foi. C'est pour ça que Dieu dit qu'elle est plus précieuse que l'or. Vous êtes d'accord? Votre foi est plus précieuse que l'or. Vous serez sauvés, non pas parce que vous aurez fait des œuvres. Les œuvres vous attireront des récompenses, c'est évident. Mais vous serez sauvés par la foi. Dans la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous entendez, mes frères et sœurs? Tout est grâce. Je ne sais pas ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Mais je peux vous dire que tout est grâce. Dieu est souverain, c'est écrit. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il sait ce qu'il doit faire, le Seigneur. Et si votre foi est éprouvée en ce moment, dites-le lui, même si c'est en serrant un peu les dents, dites-lui, Seigneur, merci. Parce que ma foi, je n'avais pas compris qu'elle était précieuse. Et que tu veux la travailler, la peaufiner, l'améliorer pour que mes prières soient exaucées. Cet officier, il a compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui est dit de lui? Non, mais je veux dire, c'est pas énorme. Hein. Vous avez vu au verset 3. Ayant entendu parler de Jésus. Cet officier, il était là-bas, bien sûr, en mission pour 2 ans, 3 ans, comme les officiers aujourd'hui qui partent plusieurs années dans des pays pour l'oppression, etc. Enfin, pour le boulot. Il a entendu parler de Jésus, peut-être des soldats à lui, qui sont rentrés un jour. Il a entendu. Moi, je franchement, je me suis posé la question, comment ça s'est passé? Peut-être il y a 2 de ces soldats qui sont... Tu sais pas, maître, ce qui peut arriver, ce qu'on a vu aujourd'hui. On était en bas d'une montagne, on faisait notre boulot, on rentrait de mission, et on a vu un lépreux qui a été touché par un homme qui s'appelle Jésus. Ce lépreux a été guéri, tout l'auditoire était bouleversé. Écoute, on te dit ça, C'est extraordinaire. Ça a dû se passer comme ça. Oui ou non? Peut-être des amis à lui. Peut-être il prenait, je ne sais pas moi, une boisson, il se rafraîchissait. Tu ne savais pas, nous étions en ville l'autre jour. Et encore, vous savez, cet homme qu'on appelle Jésus, il a pardonné une femme, une pauvre femme. Et cet homme, il a dû rentrer chez lui, il a dû... Il a dû dire, mais qu'est-ce que c'est? Il a entendu parler de Jésus, cette démarche qui l'a propulsé dans la vérité, alors qu'il n'est peut-être pas encore sauvé. Il a entendu parler de Jésus. Est-ce que vous croyez vraiment, mes frères et sœurs, qu'avec tout ce qu'on entend, on ne devrait pas avoir une démarche de grâce, de lire la Bible avec ce bonheur d'avoir le Saint-Livre? Il y a des gens, oh, la Bible, je l'ai lue, la Bible, j'y comprends rien. Quel mépris. C'est sûr que ce genre de propos, et je pourrais en citer d'autres, n'est pas dans une démarche de vérité, mais de mépris. J'espère que nous aimons lire la parole. Ayant entendu parler de Jésus, cet homme, il a développé une foi vivante. Je le répète, il n'a pas besoin que Jésus vienne dans sa maison pour poser les mains sur son serviteur. Dis un mot. On est compte, parce que moi qui suis officier, je dis un mot et bien on m'écoute. Je dis à l'un va et il va, je dis à l'autre viens et il vient, je dis à l'autre de bon fais ceci et il le fait. Alors toi, j'ai compris, tu es le Seigneur des Seigneurs. Dis un mot. Je ne sais pas si nous vraiment nous saisissons cette bénédiction pour nous. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Je ne sais pas, quand vous avez lu la Bible pour la première fois, vous avez lu la Bible, vous avez ouvert, on vous a dit peut-être commencer par Matthieu, mais vous avez commencé par la Genèse, et vous avez lu que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bon, pour nous, la lumière, c'est le soleil, mais quand on fait quelques études, on se rend compte que c'est la création de l'univers. Dieu a parlé. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux, qu'ils éclairent le jour et qu'ils éclairent la nuit, etc. Vous connaissez les textes. Dieu a parlé et des centaines de milliards de galaxies, comprenant des centaines de milliards d'étoiles chacune, ont été créées. Vous le croyez? Vous le croyez que Dieu dit et la chose arrive? Vous le croyez, mes frères et sœurs, que ces histoires, elles sont là pour nous émerveiller, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous stimuler? Car Dieu dit, et la chose arrive. Cet homme, il a émerveillé, on le voit, c'est la seule fois, je le répète, on le voit aussi avec la Syrophénicienne, qui a dit, mais les petits chiens, ils ramassent, vous savez le texte. Et Jésus a été également émerveillé par la foi de cette femme. Il a dit, à cause de cette parole, vois, ta foi est grande. Oui, je le répète, le diable, les impies, des pseudo-chrétiens, des mauvais chrétiens, hélas, peuvent détruire, essayer de détruire notre foi. Mais à quoi ça sert de prier? Tu vois bien, ton fils n'est pas encore converti, ça ne sert à rien. Si tu es mulet, il ne se convertira jamais. Vous savez, des gens, ils sont forts. Hein, c'est vrai ou c'est pas vrai? Que c'est dommage. Jésus admira un officier de l'armée romaine formé pour détruire l'ennemi. Cet homme, il avait choisi à un moment donné, peut-être que c'est les témoignages, il dit, mais il y a quand même un Dieu qui agit sur cette terre. Il a vécu du temps de Jésus, il a entendu, je disais deux témoignages, peut-être il y en a eu une quinzaine. Dieu a fait converger toutes ces choses vers cet homme parce qu'il voulait le sauver. J'attirerai les hommes à moi, dit le Seigneur. Mais si nous sommes là, je pense quand même, tous, si nous sommes ici ce matin, on peut le calculer comme on veut, le Seigneur nous a attirés. Que son nom soit béni. Si on est ici ce matin, je ne sais pas si vous allez bien ou pas, c'est pas trop grave. Si on est ici ce matin, c'est qu'il s'est un peu passé la même chose que pour cet officier. Dieu nous a attirés à lui. Que son nom soit béni. Et nous pouvons nous aussi faire cette démarche. Tiens, tu as admiré ce centenier à cause de sa foi. Ah mais aussi, quand est-ce que tu as fait des reproches aux gens? Eh bien, quand est-ce que Jésus a fait certains reproches? Eh bien, il a fait certains reproches à ses apôtres, je parle, à ses enfants. Je ne parle pas aux pharisiens hypocrites. À ses enfants, le seul reproche que Jésus a pu faire, c'est par rapport au manque de foi. Jusqu'à quand vous supporterai-je? À ses enfants. Où est votre foi, gens de peu de foi? On voit que les seules fois, écoutez bien ce que je vous dis, les seules fois où Jésus a vraiment été sévère avec ses enfants, nous, c'est chaque fois où la foi a peiné. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est bloquée. Il n'a jamais été sévère avec un pécheur. Est-ce que vous voyez Jésus dans les évangiles en train de dire à un homme, « Mais tu es un pauvre homme. Tu es misérable. » Vous l'avez vu ça dans la Bible? Vous avez vu Jésus en train de se courber vers quelqu'un et de lui dire, « Mais tu es vraiment misérable. » Tu es chargé de péché, tu es chargé de misère, tu ne vaux rien. Non. Jamais. Que son nom soit béni. Lui, il se penche vers ses enfants et il peut nous faire ce reproche. Mais où est ta foi? Ce n'est pas pour nous démolir. Nous, des fois, on fait mal parce que, ouais, si tu avais la foi, tu ne serais pas là. Mais on ne sait pas dire les choses. Il faut qu'on demande pardon quand on se rend compte qu'on s'est loupé. Mais mes frères et sœurs, quiconque se rendra humble, j'allais dire comme cet officier, ou comme ce petit enfant dira Jésus, vous connaissez la suite, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Un petit enfant. Bien sûr que les scientifiques, lorsqu'ils usent, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel, je suis persuadé qu'ils ne comprennent pas tout à fait comme un enfant. Un enfant, il peut croire que si Dieu a parlé des centaines de milliards, de milliards, de milliards d'étoiles, on peut être créé à la seconde même. Alors vous comprenez bien que si notre foi d'amour, parce que nous aimons nos enfants, parce que nous voulons voir nos amis, nos serviteurs, nos servantes, nos patrons, nos patronnes, qu'importe. Je n'ai pas besoin, Seigneur, que tu viennes le toucher. Il n'y a pas besoin, je vais dire quelque chose qui est clair. Mon fils, j'aimerais qu'il vienne à l'église. Mais vous croyez que Dieu peut toucher votre fils dans son appartement? Est-ce que vous croyez vraiment que le Saint-Esprit peut faire trembler le cœur de votre fils? Quand il est sur sa PlayStation en train de s'étourdir, vous croyez que le Saint-Esprit a le pouvoir de lui parler? Dis un mot. Dis un mot. Mes frères et sœurs, quelle histoire, béni. Oui, c'est pour les inconvertis. C'est pour les inconvertis, cette histoire, non? Une foi grande. Une foi qui grandit. Une foi vivante qui sauve. Et si quelqu'un est perdu ce matin, est-ce qu'il peut être sauvé? Une foi qui guérit, est-ce que quelqu'un peut être guéri? Mais Seigneur, tu as vu, je ne mérite pas. Je suis tout le temps en vrac. Je ne mérite pas la guérison. Mais mes frères et sœurs, vous ne l'aurez pas. La guérison, vous ne l'aurez pas parce que vous la méritez. La guérison, vous l'obtiendrez parce que Jésus guérit. Par amour. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il a donné sa vie. Et souvent, mais je vous assure, mes frères et sœurs, je vous en supplie que nous nous rendions humbles, comme un petit enfant. Seigneur, merci pour le salut de mes enfants. Merci pour le salut de mes ennemis. Ouais. Est-ce que ce matin, nous allons terminer notre culte? Nous allons le conclure par un chant. Je veux compter sur ta grâce, parce que vous savez, la foi sans la grâce, même si elle est grande, elle ne servirait pas à grand-chose. Vous êtes d'accord? Cette foi qui peut relever, cette foi qui peut restaurer, est-ce que vous aimeriez que ce matin, vous vous observiez dans votre cœur que votre foi peut grandir? La foi, la vraie foi, fera que Dieu ne vous refusera pas sa grâce. Vous avez vu ce que Jésus dit à cet homme? Enfin, ça, c'est pas dans Luc. Dans Matthieu, va. Un mot. Va. Il demande un mot. Jésus lui adresse un mot. Va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et si ce matin, écoutez-moi mes frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire, parce que c'est peut-être le moment le plus important du culte, ce moment où vous allez décider de faire un acte de foi et de dire, Seigneur, je vais m'atteler à cette affaire. Ma foi est faible, ne vous traumatisez pas. Ma foi est superficielle, ma foi est bancale. Eh bien, Seigneur, si tu me poses la question, où est votre foi? Il a posé la question. Où est votre foi? Qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce que tu répondrais ce matin? Ne répondez pas à haute voix. Mais qu'est-ce que vous répondriez si le Seigneur te disait, me disait, où est ta foi? Eh bien, peut-être que nous lui répondrions tout simplement, Seigneur, aide-moi. Aide-moi vraiment. Je vais relire ta parole. Je vais recommencer les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je vais m'arrêter sur tous ces textes qui sont laissés par le Saint-Esprit pour revivre moi aussi ces choses. Pour moi, pour les gens que j'aime, pour un serviteur, pour un patron, pour mon enfant. Tu peux sauver mon enfant, Seigneur, sans que personne ne touche, sans qu'il vienne à l'église. Une foi qui est agissante par l'amour. Seigneur, donne-moi d'aimer. J'ai un problème, j'ai du mal à aimer. J'aime mes enfants, j'aime mes amis, c'est ça, c'est facile, les païens le font. Donne-moi d'aimer toute l'Église, tous les frères et toutes les sœurs, j'ai du mal. Aide-moi à redevenir humble. Si tu dis que tu as créé les cieux et la terre, si Dieu dit qu'à un instant, un clin d'œil, les morts en crise ressusciteront, ne le calculez pas. À un instant, à un clin d'œil, les morts en crise ressusciteront. C'est quand même pas mal à faire, ça. Seigneur, aide-moi à redevenir humble, afin que cette humilité me conduise dans une vérité, que je ne devienne pas un chrétien légaliste ou laxiste avec des propos qui détruisent l'Église. Je le répète, le légalisme et le laxisme, qui sont les deux ferments de l'apostasie, ont détruit le royaume de Dieu. Mais Dieu n'est pas d'accord. Et Dieu, il fera converger les choses sur les gens qui sont humbles dans une démarche de vérité, comme ça s'est produit pour cet homme. Ce n'est pas compliqué. Alors Seigneur, aide-moi à croire à ta puissance. Dis un mot. Il avait compris, lui. Il avait compris. Un mot. Vous croyez que si Dieu dit un mot sur votre fils, ce soir il est sauvé? Aide-moi à croire à l'autorité de ta parole. Mes frères et sœurs, ces histoires, je ne sais pas si vous aimez les lire. Moi, toute cette semaine, j'ai eu cette histoire sur mon cœur. Et j'avais compris pourquoi. J'avais compris que c'était pour nous et pour tous ceux qui écoutent sur Internet. Parce que Dieu te dit que ta foi, elle est plus précieuse que l'or. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Vous avez tous une mesure de foi. Ne sortez pas, que quelqu'un ne sorte pas me disant « Monsieur Gou, moi j'ai pas la foi ». Ce n'est pas vrai. Vous ne la voyez pas, mais vous l'avez. Et elle est précieuse. Et on va la bichonner. Et on a un Dieu qui va nous aider. Vous croyez que n'importe quel pécheur, un de ces juifs aurait dit, mais c'est vrai, on s'est loupé, pardon, aide-nous. Mais il aurait aidé. D'ailleurs, dans les actes, quand il y a eu le réveil, quand il est dit, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi, c'est bien qu'ils ont changé. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Compris? Par habitude, bien sûr. Pardon. Je l'ai fait exprès. Compris. Par la foi. Est-ce que vous croyez que l'on peut terminer ce culte en priant par la foi, agissante dans l'amour, demandant un cœur humble pour retrouver un chemin de vérité? Je crois, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aidera. Je le suis sûr. On prie. Notre Père, tu as permis que ta parole soit traduite dans notre langue. Merci. Merci pour la croix. Merci pour ta parole. Merci pour le jour où tu as décidé que ce texte serait inclus dans les Écritures. Tu sais, Seigneur, le nombre de fois où notre foi a été bancale, petite, faible. Tu sais combien nous avons tous honte, Seigneur. Mais nous croyons que tu as laissé ces textes pour que notre foi fasse des progrès. Nous voulons avoir exactement le même comportement que cet officier, une démarche humble qui nous conduira dans la vérité. Pardon, Seigneur, mais comme nous allons te le chanter, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce infinie. Nous comptons sur ta miséricorde. Merci de ne pas nous avoir traités selon nos péchés. Merci de ne pas nous avoir punis selon nos iniquités, punitions que nous aurions méritées. Merci pour ta patience, merci pour ta bonté, merci d'avoir inclus dans ta parole que tu ne te souvenais pas de nos péchés, que tu les oubliais. Seigneur, aide-nous, tout le long de la journée et dans les jours qui suivront, à avoir une grande foi, pour ta gloire, pour ta gloire, pour la gloire de ton nom, dans les cieux et sur la terre, que dans notre Église, dans les assemblées, dans nos familles, nous puissions voir les gens qui sont malades, les courbés, les malheureux, être restaurés. Être guéri, être sauvé. Nous te remercions de n'avoir jamais méprisé quelqu'un, Seigneur. Merci, merci d'avoir béni le plus vil des pécheurs. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci pour le jour où nous aussi, nous avons entendu parler de toi. Seigneur, nous ne réalisions pas la grâce que tu nous accordais ce jour-là. Les années ont passé et nous le comprenons mieux. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Aide-nous à ce que notre foi grandisse. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.